9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club de l'été, un club ouvert à tous. Que vous soyez en basket, en tongs, en espadrilles ou même en claquettes chaussettes, on accepte tout le monde ici. Seule condition pour
entrer. Soyons tolérantes, les filles.
Seule condition pour entrer, avoir une bonne dose de curiosité. Nous avons deux heures pour partager nos coups de cœur culturels et culinaires. À mes côtés, Sophie Massieu pour le tourisme et la culture.
Bonjour.
Et Sophie Mounz pour la gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Comment ça va aujourd'hui?
Bah sans claquettes chaussettes, ça va très bien.
Tout à fait. Oui, en sandales, ça marche
aussi. J'ai mis en sandales.
On aime tout le monde.
Oui, c'est vrai.
C'est la française.
Vous aurez menti, Sophie Mounz. Sophie Massieu, vous nous emmenez ce matin en Alsace.
Oui, absolument.
Et vous n'allez pas en dire plus, c'est ça?
Ben non, absolument, parce que j'aime bien faire durer un peu le suspense, vous me connaissez. On va grimper, on va prendre un peu d'altitude, je peux vous dire ça quand même.
Sophie Mounz, aujourd'hui, on ne mange pas, on boit avec notre ami Modération.
Oui, on va rester en Alsace, un vignoble qui se porte bien, très bien, et qui opère son virage durable. J'aime ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on parlera de la carbonara.
Ah si.
Senza crème. Hein.
Troisième épisode
Mais
de la saga des pâtes.
Mais avec beaucoup d'amour.
Évidemment, toujours.
Évidemment.
Nous aurons deux heures pour parler de ce patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été et n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Le hashtag c'est Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Notre invitée est humoriste, chanteuse. Elle maîtrise aussi bien le répertoire d'Edith Piaf, Charles Aznavour, Amy Winehouse que Dora l'exploratrice. Portrait sonore.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos.
Mais compte les filles, quoi. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, quoi. 20 ans. Regarde-toi, Sinonie, mais c'est dingue ce que tu fais chic, quoi. Mais ça, c'est la ville.
C'est Léonie.
Pardon. Mais non, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir, franchement. Mais c'est pas compliqué, quoi. Léonie, Léo, prénom féminin, diminutif masculin. Bah non, j'y arrive pas. Dites-moi les enfants, vous les voyez le bateau dans cette image? Montrez-le-moi. Et reste comme ça pendant 2 minutes parce qu'elle attend la réponse. Et là, ma fille pète un câble. Là, il est là, le bateau, il est là. Il est là, le bateau, il est là. Il est là, le bateau, il est là. Il est là, le bateau, il est là.
Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule.
Try to make me go to Reina, but I won't go, go, go.
At last. My
Bonjour Christelle Chollet.
Qu'est-ce que j'aime ta James?
Ah bah moi aussi, donc vous m'avez fait beaucoup plaisir là matin.
Alors là, mais c'est une de mes chanteuses préférées.
Vous m'avez fait très plaisir. Nous sommes très heureuses de vous retrouver dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes humoriste et chanteuse. On peut vous voir en ce moment dans numéro 5 de Cholet, votre 5e One Woman Show. Je vais y arriver au théâtre de la Tour Eiffel à Paris avant une longue tournée un petit peu partout en France. Nous allons évidemment parler de ce spectacle au cours de l'émission. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu dans ce petit portrait sonore qui navigue au cours de votre carrière?
Bah, c'est Madeleine de Proust sur pas mal de choses. Ouais. Il y a Piaf, il y a effectivement Amy Winehouse. Et puis c'est rigolo de réentendre des morceaux de ces spectacles précédents. C'est chouette, merci beaucoup.
Bah, avec plaisir. Il y a évidemment eu aussi Charles Aznavour qui fait aussi partie de vos références.
Ah oui, référence de chansons françaises. C'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer. Et d'ailleurs, dans le nouveau spectacle, j'ai pas résisté à l'idée de lui mettre un petit hommage. Et oui, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup, évidemment. Et pareil, je suis pas la seule, je crois.
Non, vous êtes pas la seule. Il y a aussi Piaf que vous aimez beaucoup.
Oui.
On a entendu évidemment un extrait de La Foule de L'Empiafé. C'était votre spectacle que vous avez joué pendant 6 ans entre 2006 et 2012. 500 000 spectateurs l'ont vu. Comment est-ce qu'on passe au suivant? Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on se dit bon? C'est bon, il a vécu, celui-ci, il faut le laisser partir et il faut passer à la suite.
Il faut, oui, on a très peur parce qu'on quitte quelque chose qu'on connaît par cœur sur le bout des doigts. Et puis on quitte aussi des gens qui rigolent, qui se lèvent. On connaît les moments sur 6 ans d'exploitation d'un spectacle. On sait où on est surpris parfois, mais on sait ce qui va se passer. Et on a très peur, mais il faut changer. Et puis il faut, c'est comme un saut à l'élastique. On aime bien cette, on aime bien
le moment juste avant.
Le moment juste avant. Et puis il faut se lancer. Et puis on voit qu'on retrouve des sensations, que les gens rient à d'autres choses. Mais c'est vrai que le deuxième et c'est la sensation la pire, je crois. Le deuxième spectacle. Après un spectacle qui a marché, on se dit mais on pourra pas en faire un
aussi bien qui marche autant.
Et comme on essaie de faire encore mieux chaque fois. Alors je vous dis pas qu'on a plus d'appréhension maintenant. Pour les autres, c'est pas vrai, parce que c'est toujours. Mais c'est vrai que le deuxième, on est un peu plus stressé. Ouais.
Et puis il y a quelque chose comme on vous attend au tournant la confirmation de savoir est-ce que c'était pas un accident heureux et de se dire est-ce que vraiment elle va tenir la route. Alors vous l'avez confirmé, puisque vous en êtes à votre cinquième. On a aussi entendu le deuxième, c'était l'entubé, un extrait de Amy Winehouse, c'était entre 2012 et 2015. Il y a eu Comic Hall aussi qu'on a entendu, que celui-là vous allez jouer pendant 4 ans aussi. Donc ouais. Vous les jouez aussi, ils vous accompagnent assez longtemps vos spectacles.
Oui, parce que moi je me lasse jamais d'un spectacle, c'est mon problème. Heureusement que j'ai Rémi Katia, mon auteur, metteur en scène de Marie, qui est là pour dire il faut changer, là. Allez. Ça y est, on a fini l'exploitation. Parce que moi, je n'arrive pas à me lasser. Je pars du principe qu'on met des gens dans une salle, dans la même salle, le lendemain, on met exactement les mêmes gens avec le même spectacle. Bah, il ne se passera jamais la même chose. C'est la magie du spectacle vivant.
Il y a eu un extrait, je ne sais pas si vous l'avez décelé, de Arrête de pleurer Pénélope, où vous jouiez Suzelle. C'est un film de Corinne Puget, Juliette Arnaud, sorti en 2012. C'était comment cette expérience au cinéma?
C'était très, 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 très chouette. J'ai adoré ces filles et j'ai adoré rentrer dans leur univers comme ça. Le film n'a pas rencontré son public.
Oui, on dit toujours poliment. Votre personnage, il était savoureux aussi. Je pense que vous avez dû vous amuser.
Oui, je me suis beaucoup, beaucoup amusée et j'ai été très, très libre sur ce tournage. On m'a donné toutes les libertés pour ce personnage, donc j'en ai profité honteusement.
Il faut, quand on vous donne la liberté, il faut la prendre. Avant de poursuivre notre discussion avec vous, Christelle Chollet, on va écouter I Don't Care, c'est Ed Sheeran et Justin Bieber sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Lise Pressac.
Il est 9h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du club de l'été avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Christian. C'est notre fils. Alors j'imagine que c'est Baptiste. C'est un pseudo qui nous a fait connaître Christelle Chollet lors de son premier spectacle. Depuis, on l'a revue et même rencontrée. Une très belle personne derrière la showwoman de talent. Bise à elle. On ira la voir au théâtre de la Tour Eiffel très bientôt.
Merci Christian. Et j'embrasse. Effectivement, il s'appelle Baptiste. Je l'appelais Batman parce que je l'ai vu. Il est venu me voir dans l'Empire Eiffel. Il était tout petit. Maintenant, il est très grand.
Ah bah oui. Du coup, il va
c'est
vous
moche quand les enfants grandissent comme ça.
Bah c'est nous qui nous rendons compte qu'on vieillit en fait.
Voilà, tu vois pas grandir, puis un jour, hop là, dis donc, t'as 20 ans.
Tout d'un coup.
Mais dis donc,
t'étais beaucoup trop vite. Tu ne portes plus de 6 mois donc, voilà, il faut passer à autre chose. Christelle Chollet, on peut vous voir donc en ce moment dans numéro 5 de Chollet, c'est votre 5e One Woman Show au théâtre de la Tour Eiffel. On écoute un extrait.
Moi, si je devais rallier un mouvement féministe, je crois que ce serait les fémènes. Calme-toi, c'est un sketch. De toute façon, l'égalité des sexes, c'est pas possible. Déjà qu'entre vous, les hommes, les sexes sont pas égaux. Tu ne vas pas chanter Jacques Brel sur cette musique de sauvage.
Alors, on l'entend, vous chantez, vous dansez, vous faites rire, vous êtes humoriste et chanteuse. C'est rare dans un pays où on aime mettre des gens dans les cases. Est-ce que vous avez chanté avant de faire rire? Vous avez fait rire avant de chanter? Ou tout est venu en même temps, Christelle Chollet?
Tout est venu en même temps. J'ai fait le conservatoire. Enfin, j'ai fait. Je me suis faite virer du conservatoire de théâtre.
Oui, vous y êtes passé.
Vous avez vu la lumière.
Là-bas, c'était comédienne et je chantais juste pour gagner ma vie dans les bars, les restos, dans la rue parfois. Mais je n'ai jamais quitté l'un et l'autre, ça a toujours été ma façon de m'exprimer. Et c'est la forme qui change, mais en tout cas, j'ai toujours eu ces deux façons de m'exprimer. Et j'aime bien faire des cocktails, on va en parler tout à l'heure avec Sophie. Et donc j'aime bien mélanger tout ça, je ne peux pas me passer ni l'un ni l'autre.
Et à quel moment on réalise qu'on a ce pouvoir de faire rire et surtout qu'on peut en faire un métier, parce qu'on l'a tous un tout petit peu, on l'espère en tout cas, de faire rire, mais on n'a pas tous les capacités de monter sur scène comme vous le faites.
Alors moi c'était très précis, c'était justement au conservatoire avant de me faire virer. je passais des textes très sérieux de jeune première, parce que j'avais 18 ans, donc je voulais vraiment ressembler à dire le petit chat est mort, vous voyez, et ressembler
jouer
à Agnès.
Jouer dans des tragédies grecques.
Mais même Agnès dans l'école des femmes. Et chaque fois que je montais sur scène, mes camarades étaient pétés de rire. Et puis à un moment, alors au début j'étais un peu vexée, puis à un moment je me suis dit bon quand même, va falloir explorer cette voie-là. Et je crois que je suis un peu clownesque malgré moi. Mon mari rit beaucoup quand il me voit me déplacer. Donc je pense que il y a de ça en moi. Mais
pourquoi vous êtes fait virer du conservatoire?
Oh, à l'époque je me prenais un peu pour Che Guevara. Il faut pas le dire parce que mes enfants ont 18-19 ans, là, il faut pouvoir... Mais je me prenais un peu pour Che Guevara, oui, je voulais bouger la terre entière, et puis je n'étais pas d'accord avec quelques règles. Je n'étais pas très scolaire, je n'ai jamais été très scolaire. Ça non plus, il ne faut pas que mes enfants...
Oui, voilà, allez à l'école, faites le tout pour le tout, puis après on verra. Vous l'avez cité, vous travaillez en famille avec votre mari Rémi Cassia qui vous met en scène. Qu'est-ce que ça change? Hier, à notre micro, on avait Ariane Massenet qui joue dans une pièce mise en scène par sa sœur. Elle disait qu'on gagne du temps. Parce qu'en fait, on se connaît par cœur et qu'on gagne un temps fou. En fait.
On gagne un temps fou, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et on ne prend pas des chemins détournés pour aller dire les choses. Puis on se connaît tellement qu'on voit la bonne foi, la mauvaise foi, même si moi, j'en ai absolument pas.
Bien sûr, c'est sûr. Tout est votre mari, évidemment.
Non, mais c'est très simple. C'est quand c'est bon, c'est génial. Et quand c'est de la merde, c'est de la merde. On dit, bah, écoute, ma chérie,
on prend pas de pincettes, quoi.
Oui, et puis ça va vite. Quand maintenant, on a tellement confiance l'un en l'autre que. Et puis surtout, on est tout à fait dépendants l'un de l'autre au niveau artistique. C'est-à-dire que moi, je vis au travers de ce qu'il écrit, de ce qu'il met en scène. Et lui vit ses textes et lui vit au travers de moi. Donc, on a une confiance mutuelle. C'est comme deux jumeaux et deux personnes accrochées l'une à l'autre. Et ça va très, très vite. Ouais. Et puis là, depuis 10 ans de One Woman Show, c'est de plus en plus agréable. On s'engueule de moins en moins quand on fait des créations, quand on... C'est vrai. Au début, on s'engueule jamais dans la vie, mais vraiment jamais. On n'a jamais vraiment, on se...
Pas sur le quotidien, en tout cas.
Non, pas sur le quotidien, ni les enfants et tout. Mais sur scène, c'était notre ring un petit peu à un moment, mais là pas plus du tout.
Et vous l'avez
rangé les gants de boxe.
Nous vieillissons, je pense.
Peut-être. C'est la sagesse, peut-être. On s'assagit.
C'est un des thèmes de mon nouveau spectacle, c'est le temps qui passe, le temps qui court, c'est le temps. Et ouais, c'est comment on vit le temps qui passe.
Et c'est aussi la même famille sur scène, puisque vous êtes aussi fidèle avec votre équipe. Et je pense que ça aussi, ça se ressent, parce que vous jouez avec deux musiciens.
Oui.
C'est Raphaël Alazac et Jérémy Junior, si j'ai bien entendu.
Alors, ils sont quatre, ils se remplacent. Il y a Maxime Pichon, Raphaël Alazraki. Alors, Raphaël Alazraki, c'est le parrain de ma fille, donc autant vous dire que ça fait un peu 25 ans qu'on se connaît. Jérémy Junior et Rémi Charlet.
Voilà, c'est une grande famille, en tout cas, sur scène.
Deux guitaristes et deux pianistes. Comme ça, je choisis.
Bah ouais,
alors,
c'est bien.
Aujourd'hui, non, j'aime pas ta chemise, allez.
Et vous faites un merdelet des années 80. Alors, comme son nom l'indique, c'est un medley, mais uniquement de chansons de merde. C'est quoi une chanson de merde, Christelle Cholet?
Alors, très précisément.
Oui, parce que, est-ce qu'il y a une définition, voilà, du dictionnaire?
C'est une chanson sur laquelle on a beaucoup dansé, qu'on a beaucoup chanté.
Okay.
Et 20 ans plus tard, on se rend compte qu'elle était toute pourrie. Et bien sûr, on n'assume pas. Et t'écoutais quoi, toi, dans les années 80? Moi, dans les années 80, j'écoutais les Stones. Alors qu'en vrai, tous les samedis soirs, c'est la danse des canards.
Voilà.
En sortant de la mare, voyez, c'est ça, une chanson. C'est pour ça que j'ai fait un merdelet des années 80. C'est comme son nom l'indique, c'est un medley, mais uniquement avec des chansons de merde.
Moi, j'adore ce concept et j'adore les chansons de merde.
Mais moi aussi, je suis absolument fan des chansons de merde. Et puis alors, j'en ai une sacrée valise, je peux vous dire.
Oui, je pense qu'on en a juste à dire un titre.
On va pas fâcher personne.
Déjà qu'on a fâché Patrick Bruel toute la semaine.
Oui, c'est ça. On va éviter.
C'est pas des chansons de merde. Patrick Bruel n'écrit pas des chansons de merde.
Non, on est d'accord. Dans un instant, Christelle Cholet, vous allez partager avec nous vos coups de cœur. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Tu me dis, je prépare une chanson sinon.
Oh oui, oui.
Summertime blues.
Une autre.
On nous pole au solidaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire. Celle des Val.
J'ai jamais vu une telle voix avec un tel goût de chiottes. C'est incroyable.
Moi, franchement, ce que vous avez chanté, j'ai regardé ça comme un truc de foire.
Vous l'aurez compris, je ne serais pas prise pour une comédie musicale.
Ça s'appelle se confronter à la réalité. Lise Pressac.
De réalité.
Plus ça va, plus les jingles sont longs.
Non, c'est horrible, Christelle. J'ai honte devant vous, en fait. Là.
Il faut enfermer le monsieur qui est dans la cabine. Derrière,
oui, bah,
parce que...
c'est Loïc, la réalisation, qui pourtant m'aime bien, je crois, mais bon, j'ai des doutes, du coup. Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse, Christelle Cholet. Quand on vous
parce que c'était pas moi qui chantais.
Non,
dans
on
le
précise, hein, non, elle chante beaucoup mieux, allez la voir sur scène surtout. Moi, je ne me produis pas. Non, bah,
c'est jamais.
Je suis assez consciente quand même. Quand on vous a demandé quels étaient vos coups de cœur, vous avez répondu tous les livres de Pierre Lemaitre.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en citer pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur et pourquoi vous aimez ces livres particulièrement?
Alors, j'aime ces livres. Parce que ça me... Déjà, parce que je n'arrive pas à décrocher, et ça, j'adore quand je suis dans un bouquin, de ne pas pouvoir lâcher les pages et aller jusqu'à la fin, comme ça, même parfois en une journée.
Pourtant, ils sont gros. Hein.
Et, Sophie Messieux.
Pourtant, ils sont.
Oui,
ce sont
c'est,
des
et puis ce sont des histoires rocambolesques. Ouais. Et puis ce sont des personnages magnifiques.
Incroyable. Ouais.
Surtout le dernier, Couleur de l'incendie, qui est un personnage féminin, une femme qui traverse des époques comme ça, qui il y a une histoire de vengeance. Mais c'est vraiment magnifique. Puis. Et puis, il écrit sublimement bien. Il y a Trois jours et une vie aussi qui m'a marquée. Mais
et Cadre c'est... noir, vous l'avez lu?
Non.
Non, vous ne l'avez pas lu? Ah, non. Il est magnifique aussi.
Comment il s'appelle?
Cadre noir.
Ah non, je ne l'ai pas. L'histoire c'est un des premiers?
Oui, c'est ça.
C'est un des premiers? Non,
ouais,
je ne l'ai pas lu
ça,
encore.
L'histoire d'un type qui vit, que le boulot rend complètement fou et ça ne va pas bien finir. Ni pour lui, ni pour les autres.
Petit suspense.
Et je m'identifie à fond le personnage de Madeleine dans Couleur de l'incendie. D'ailleurs, je crois qu'il va être adapté, tout comme Au revoir là-haut,
oui, comme
qui a été adapté,
ouais.
Il va être adapté. Mais c'est pas moi qui joue le rôle.
Ah bah comment ça?
Bah écoutez, bah, je ne suis pas placée avant.
Bah, fallait, vous n'avez pas passé le coup de fil au bon moment.
J'aurais dû.
Bah, peut-être qu'ils vont en écrire d'autres et qu'il y aura d'autres adaptations.
J'espère.
Jamais.
Pierre Lemaitre, si tu m'entends.
Voilà, l'appel est lancé.
J'ai écrit un personnage.
L'appel est lancé sur Europe, en tout cas. Sophie Messieux, vous avez lu des Pierre Lemaitre?
Oui, j'en ai lu plusieurs aussi. Je suis fan aussi et je pense que c'est une très belle personne. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je le suis sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un de vraiment engagé aussi, qui a une fibre sociale, qui vient d'un milieu modeste. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois en interview, je l'ai lu plusieurs fois en interview, en portrait dans Le Monde, etc. Je pense que c'est vraiment une très belle personne et les livres s'en ressentent. Moi, je suis comme vous quand je les commence, j'ai du mal à les lâcher.
Ouais. Et il parlait, alors c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à lire le livre. Il parlait d'Alexandre Dumas, il parlait de toutes ces histoires magnifiques, rocambolesques qu'il disait quand il était petit. Et puis il dit, quand j'écris, j'ai envie que les gens ressentent ces choses que j'ai ressenties moi quand j'étais jeune. Et c'est exactement ce qui se passe.
Et pourtant, c'est pas facile comme défi. Et de mon côté, moi, je voulais vous conseiller autre chose. C'est un mensuel culturel qui s'appelle L'Œil. Grâce à lui, tout l'été, nous avons été inspirés pour découvrir toutes les expositions à ne pas rater. Nous sommes en ligne ce matin avec Fabien Simode, qui est rédacteur en chef du magazine. Bonjour Fabien, et merci d'être en direct avec nous ce matin.
Merci, bonjour Lise Pressac, bonjour le Club de l'été.
Bonjour.
Vous allez bientôt publier votre numéro de rentrée, ce sera le numéro 726, car le mensuel existe depuis 1955. Alors je voulais d'abord vous dire merci, car vous avez été une source d'inspiration tout notre été au Club. Comment est-ce que vous avez travaillé pour dénicher les 1001 expositions de l'été ?
Alors déjà, c'est avec plaisir qu'on vous offre ce numéro chaque année. C'est un numéro qui dure un an quasiment pour nous en réalisation, puisque toute l'année, on va noter dans un coin toutes les expositions dont on aura la connaissance, qui auront lieu partout en France, à Paris et partout en France, et voire dans le monde, pour vous offrir un agenda, un planning des meilleures expositions à ne pas louper, région par région. Et ça fait, nous on appelle ça les 1001 expositions d'été, puisqu'on a arrêté de les compter, mais on a plusieurs centaines, effectivement, d'expositions vues, chroniquées, aimées, parfois un peu moins. Voilà, en tout cas, au lecteur de se faire son avis et sa visite ensuite.
Et grâce à vous, notamment, j'ai eu envie d'aller à Caen, au Mémorial, pour voir l'exposition Rockwell. Je crois que d'ailleurs, je ne suis pas la seule, c'est un grand succès. D'été qui est encore d'actualité, hein, que vous soyez d'ailleurs en vacances ou non, car de nombreuses expos de l'été durent encore plusieurs mois. Et en septembre, donc, paraîtra, dans quelques jours maintenant, le numéro de rentrée, avec évidemment les expositions incontournables de la rentrée. C'est une tradition, mais aussi d'autres dossiers. Lesquels, Fabien Simode?
Bien sûr. Alors, le numéro de l'été dure encore une semaine, mais vous pourrez garder sous le coude, puisqu'il y a quelques expositions qui durent quand même jusqu'en novembre.
Oui.
Et effectivement, le numéro de septembre, on est en train de le boucler. Il paraît la semaine prochaine, le 27 exactement. Et c'est un autre numéro très attendu dans l'année. Ce sont les expositions de la rentrée. Donc, c'est une sélection beaucoup plus resserrée. Et c'est tous les grands événements à pas marquer, à noter dans son agenda. Je sais pas, vous avez, par exemple, la rétrospective Léonard de Vinci, qui est annoncée comme l'exposition du siècle au musée du Louvre, ou des coups de cœur un peu plus confidentiels mais tout aussi grand public, comme Mondrian figuratif. Mondrian, vous savez, c'est cette personne, c'est cet artiste qui fait ses aplats de couleurs géométriques, rouge, bleu, et qui, pendant toute sa vie, quasiment toute sa vie, en tout cas une partie de sa vie, a continué à peindre la figuration et notamment des fleurs, ce qui est assez étonnant. C'est ce qui fera notamment notre couverture. À côté de ces expositions, nous sommes aussi un magazine d'art dans lequel nous décryptons les tendances. On essaye de comprendre le monde dans lequel on vit.
Oui. Vous êtes dans l'actualité, et Fabien Simode, parce que vous parlez d'éco-responsabilité. Est-ce que les expos peuvent être éco-responsables?
C'est pas parce qu'on parle d'un magazine d'art qu'on est déconnecté de la réalité. Bien au contraire, l'art est à les deux pieds dans le monde, si vous voulez, est un reflet du monde. Et vous le savez comme moi, je veux dire, le sujet de société, notamment cet été avec les épisodes caniculaires, ça a été l'écologie, le climat. Et ben nous, on s'est intéressé et on s'y intéresse depuis plusieurs mois, parce que c'est une grande enquête qu'on publie sur la responsabilité des musées ou des expositions l'exposition, ou plutôt la prise en compte de l'écologie dans les expositions. On s'aperçoit que si on aime l'art, si on aime les expositions ou les musées de manière générale ne sont pas les meilleurs élèves.
Oui. Hein,
pour rassembler une centaine d'œuvres dans une exposition, c'est presque autant d'avions qui voyagent du monde entier.
Oui. C'est vrai, hein, que quand on y pense...
Avec des caisses qui sont parfois pas réutilisées, des scénographies qui sont jetées à la poubelle, puisque souvent on n'a pas le droit de les réutiliser après, parce que c'est du public, si vous voulez. Donc c'est assez problématique. Voilà. Donc oui, on a toute cette partie exposition, nos coups de cœur, nos analyses, nos critiques, et puis une partie vraiment analytique d'analyse pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Fabien Simode,
ça va.
Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'on a encore très peu de temps. Moi, je voulais votre coup de cœur rapidement de l'été en exposition et votre coup de cœur de la rentrée, s'il faut aller en choisir qu'une parmi les mille et une. Je sais que c'est difficile ce que je vous demande.
Bah, mon coup de cœur de la rentrée, je vous l'ai dit, c'est mon brillant figuratif, oui, au musée Marmottan Monet. Ça commence, je crois, à partir du 11 septembre. Et franchement, ça va être un bain de couleurs. Mon coup de cœur de l'été, allez, je vous fais un rapide tour de France en 30 secondes. Je pars de Montpellier, je vous emmène voir Vincent Bioulès, qui est un peintre de support surface des années 60 qui a basculé dans la figuration. C'est plein de couleurs, c'est plein d'air, c'est merveilleux. Vous remontez vers Landerneau, dans le Finistère, et là, vous allez voir les cabinets de curiosité. C'est plein d'étrangetés, il y a plein de musées, de collectionneurs.
Ah oui, on en a parlé au mois de juillet, oui.
Ah ouais, c'est assez génial. C'est un autre logiciel, si vous voulez, quand vous entrez dans cette exposition. On vous emmène après à Calais voir le musée des Beaux-Arts, parce qu'il y a une exposition de street art. Pas n'importe quelle exposition, parce que c'est une exposition quasiment scientifique sur l'histoire du street art. C'est une première en France et surtout dans un musée. Hein, c'est la première fois que le street art. Je sais que vous aimez le street art, vous avez parlé de Seth hier. Et là, c'est quand même un événement. Allez-y. Et je termine par le Centre Pompidou-Metz, à l'Est, avec l'exposition Opéra Monde. Pourquoi l'opéra ? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de connexions aujourd'hui avec les plasticiens qui sont metteurs en scène, qui sont créateurs, et on s'aperçoit que l'opéra est devenu un terrain de jeu presque les plus intéressants pour l'art contemporain dont nous, on parle et qu'on aime. Voilà, donc voilà mon tour de France des expositions.
Merci infiniment Fabien Simode, et la transition est toute trouvée, puisque j'en profite pour faire un clin d'œil à un livre que je me suis procuré grâce à vous, grâce à l'œil, c'est le guide du street art en France. C'est une très bonne façon de découvrir 10 villes de France à travers le street art, c'est publié aux éditions Alternatives. Merci beaucoup, vous êtes donc rédacteur en chef du mensuel L'Œil. Oui. Le numéro 726 de rentrée sera disponible en kiosque dès le 27 août et le numéro d'été est disponible jusqu'au 1er septembre. Allez-y, achetez-le. Dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur sur cette antenne. A tout de suite sur Europe 1.
C'est rigolo parce que...
Europe 1,
le club de l'été. Lise Pressac.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est le principe du club de l'été sur Europe 1. Et ce matin, c'est l'humoriste et chanteuse Christelle Cholet qui nous accompagne. Alors, quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, vous nous avez dit que vous en regardiez pas. C'est assez rare, vous gagnez tellement d'années de vie par rapport à nous.
Je suis désolée, alors après...
Décidément, on a plein de goûts communs, mais je ne regarde pas non plus.
C'est vrai, vous ne regardez pas séries. Mais alors, moi, c'est la première personne que j'envoie qui ne regarde pas de séries, mais je m'excuse.
Mais non, il ne faut pas s'excuser.
Non, mais j'ai un petit problème avec ça, parce que chaque fois, on me dit, t'as vu la série, t'as vu? Et j'ai dit non.
On va se sentir moins seule toutes les deux.
Et ouais, on va aller boire un café après, Sophie.
Non, mais du coup, vous avez essayé, vous n'arrivez pas à ce que ça vous intéresse, vous n'avez pas envie de suivre.
J'ai pas mis le nez dedans encore et moi je me suis arrêtée à la petite maison dans la prairie, je vous jure que c'est vrai.
Ah bah c'est une référence
évidemment. Et puis après ça fait très très vieille chose de dire ça, mais je me suis arrêtée là et voilà, je n'ai pas encore mis le nez dedans, mais ça va peut-être venir ou pas, je ne sais pas.
Non, mais après tout, si ça vient pas, c'est pas grave, encore une fois, vous gagnez beaucoup d'années de vie.
Apparemment, il y a une série que j'ai très envie de voir, c'est Tchernobyl.
Oui, alors voilà, on en dit énormément de bien. Moi, je l'ai pas encore
parlé.
Vu.
Et puis, je trouve que cette espèce de côté histoire, historique, et puis j'aime bien. Je vais regarder. Je vous tiendrai au courant.
Dites-moi du coup, comme ça, je saurais s'il faut que je.
Ouais, est-ce que c'est la série qui convient à ceux qui n'aiment pas les séries? On ne sait pas.
Non, apparemment, c'est très, 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 très fort.
Oui, je crois que c'est très, très fort. Bon, on en parle tous les jours. Nous, on a une dizaine de séries à rattraper, mais c'est pas plus mal parce qu'après, on devient accro. Puis c'est comme un bon bouquin. Si on commence, on n'arrive pas à le fermer.
Je pense que j'ai un problème avec ça. Je ne supporte pas d'être addict à quelque chose.
Je pense que c'est ça ce qui vous réfrène.
Et pour le coup, je préfère refuser et fermer les yeux sur les choses. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas.
comprends parce que ça peut être très très addictif. Il y a une série qui est très addictive depuis 15 ans, je vais essayer de vous convaincre de vous y mettre. Elle s'appelle Plus belle la vie. Alors vous avez 3867 épisodes à rattraper.
Je vais balancer ma sœur regarde tous les jours.
Mais moi je suis une grande fan donc allez-y, on peut balancer. C'est une série devenue culte qui fête ses 15 ans cette année. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Plus belle la vie, la série raconte le quotidien d'habitants d'un quartier imaginaire, c'est le Mistral, toutes les générations sont représentées et tous les sujets de société sont abordés. On est en ligne avec Serge Dupire qui incarne Vincent Chaumette dans la série. Bonjour Serge Dupire.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous en direct ce matin.
Avec grand plaisir.
Alors vous faites partie de ceux qui font partie de l'aventure depuis le début, avec d'autres comme Cécilia Ornus que nous avions reçue dans le club l'été dernier, mais aussi Michel Corde alias Roland Marcy et Sylvie Flep alias Myrta Torres, je crois que j'en oublie aucun. Serge Dupire, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre personnage, Vincent Chaumette ?
Vincent Chaumette, vous savez, la vie c'est un accélérateur de vie. Alors dans les deux premières années, j'ai été marié 3 fois, ouais. Divorcé 3 fois. alors mon personnage, il a évolué, il est arrivé comme architecte, le personnage emblématique du français qui débarque à Marseille. Ils avaient fait fort, ils avaient choisi un Parisien, donc le Parisien est allé s'installer à Marseille. Et là commence son histoire à lui, et toutes les histoires, c'est comme une grande toile d'araignée, Plus belle la vie. Hein. Donc tout ce qui se passe dans son histoire a une relation avec un autre personnage et tout, c'est tissé, très serré. Donc c'était un architecte, il est toujours, il est devenu... patron de BTP, il a été escroc, il a été gentil,
il a été méchant.
il a même eu un food truck pendant deux ans.
Bah
on a fait les meilleurs sandwichs de Marseille.
C'est vrai. Justement, Serge Dupire, on va écouter une compilation, alors non exhaustive évidemment, de votre personnage.
Pour moi, une ville, c'est un peu comme une femme. Si on l'aime assez, on pourra la changer en douceur, sans qu'elle perde sa personnalité. Et Marseille est une femme qui a beaucoup de personnalité.
Sans parler de ses habitants, vous vous en rendrez vite compte si vous obtenez ce poste.
Oh, je compte bien l'obtenir. Ce serait un plaisir de travailler avec vous.
Je peux te parler 2 minutes, papa.
C'est encore à propos d'Aurélie ?
Tu devrais te méfier d'elle.
Ninon, j'en ai marre, tu deviens pénible.
Vous n'êtes qu'un petit magouilleur de merde, toujours prêt à organiser des plans foireux. Vous imaginez que tout le monde est comme vous ?
Tu vas bientôt retrouver le vrai Vincent, celui que t'as connu à l'époque de Phénicie.
C'est quoi le rapport, là ?
Quand tu m'as connu, je te faisais rêver, et puis j'ai déposé le bilan de ma société, je me suis beaucoup cherché, pour finir par me retrouver à vendre des sandwichs toute la journée. Mais c'est fini tout ça.
Voilà, vous l'évoquez, le food truck. Est-ce que vous vous rappelez, Serge Dupire, de la toute première scène que vous avez tournée en 2004 ?
Oui, tout à fait. C'était justement l'arrivée de Chaumette chez lui. La famille Marcy rentrait du Québec. Et on se croisait dans la cour Marcy, donc qui était en bas du loft que Chaumette avait construit, avait rénové, construit, voilà. Et c'est la première rencontre entre le Parisien, c'est-à-dire la France, ouais. et la famille Marcy qui vit sur la cour Marcy, juste à côté du bar du Mistral.
Alors en 15 ans, vous l'avez dit, Vincent a changé, pas seulement de métier ou de femme, mais aussi de caractère. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur l'évolution du personnage, Serge Dupire ?
Non, on nous pose des questions, mais en fait, vous savez, ce sont des il y a 25 auteurs et ce sont des équipes qui tournent. Alors, souvent, on se retrouve avec des histoires de quelqu'un qui n'écrit plus déjà pour la série. Donc, nous, on peut éventuellement, sans changer le sens des répliques, changer les mots, mais... On nous demande parfois si on pense que c'est adéquat de que le personnage devienne ci ou ça, mais maintenant c'est eux qui décident et,
évidemment.
Et nous on est voilà, nous on est là pour colorer la star de la série qui est Marseille.
C'est ça. Et vous en êtes à la 15e année de la série. À mon avis, la force de cette longévité, c'est aussi de parler des sujets d'actualité. Plus belle la vie est la première série où un couple gay s'est marié, a adopté 2 enfants qui plus est des enfants métis. La série aborde tous les sujets, que ce soit la drogue, Alzheimer, la prostitution étudiante, les femmes battues, la transsexualité et plus récemment encore la GPA, la gestation pour autrui. On va vous entendre dans cet extrait avec Rebecca Hampton, alias Céline Frémont, qui a eu recours à une mère porteuse.
Bon, il faut que j'y aille, Jeanne m'attend.
Tu vas lui dire que j'ai accouché ?
Que tu as accouché ? Oui, en même temps, t'as raison, hein. C'est ce que tout le monde va croire et c'est ce que tu vas continuer à raconter.
Et en me disant, j'ai l'impression que c'est vrai.
Mais tu sais quoi ? À mon avis, c'est bon signe. Ça veut dire que tu seras une très bonne maman.
Alors c'est un sujet qui a fait réagir vivement certaines associations féministes qui ont saisi le CSA, accusant la série de donner une image favorable de la GPA, alors que vos personnages le répètent, c'est évidemment interdit en France, mais ça existe. Serge Dupire, est-ce que c'est bon signe pour vous, quelque part, que les sujets que vous traitiez fassent aussi écho au débat de société ?
Je pense que c'est un peu le but des auteurs. Vous savez, on a en plus des renifleurs qui vont par exemple à l'Assemblée nationale pour savoir de quelle loi l'Assemblée va débattre, et nous, souvent, on a des sujets. Je pense par exemple à l'époque, il y avait le gaz de schiste,
oui.
Où mon personnage était prêt à vendre. C'était la période escroc. Il était prêt à vendre des terrains et pour produire du gaz de schiste. Et il se trouve qu'au même moment, la loi était votée à l'Assemblée nationale. Donc ça faisait écho avec ce qui se passait dans la société. Et je pense que c'est une des grandes forces de Plus belle la vie, c'est de coller à la journée, à la date même, et de parler donc de tous les sujets. Par exemple, Chaumette, en ce moment, il est directeur général d'une boîte verte. Et donc, on parle d'écologie, mais en plus, ce qui était important, c'est d'avoir le rapport dans une entreprise privée, parce qu'on a le commissariat, ce sont des flics, ce sont des fonctionnaires. On a l'école, les professeurs, ce sont des fonctionnaires.
On a le café.
On a l'hôpital, c'est pareil. Maintenant, on a une entreprise privée et le rapport patron-employé. Donc tout ça fait que les gens sont assez accros, assez intéressés, et je pense que c'est dans le cahier des charges, hein, vous savez.
Oui, totalement. Et je pense que ça a été aussi très utile et salvateur pour de nombreuses personnes qui ont pu aborder des sujets parfois compliqués avec leurs parents. C'est presque une série d'utilité publique, je l'ai déjà dit sur cette antenne. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Serge Dubire, pour l'anniversaire des 15 ans? Est-ce qu'il y a un épisode spécial à la rentrée qui se trame?
Non, on le mentionne, mais il n'y a pas un épisode en particulier. On passe dessus, on ne fait pas de... On fait que ça fait 15 ans, voilà, on se prépare pour les 15 prochaines années,
oui,
c'est tout.
Avec grand bonheur, merci beaucoup. Plus belle la vie, c'est à voir du lundi au vendredi sur France 3 à 20h20 et vous ne faites pas de pause estivale, ça ne s'arrête pas. Merci Serge Dupire d'avoir été en ligne avec nous ce matin et longue vie à Plus belle la vie. Donc.
Christelle... Merci, longue vie à vous aussi.
Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose sur cette série?
Oui, Sophie Mathieu.
Je ne l'ai pas vue, hein, donc je ne vais pas commenter ça, mais en revanche, c'est aussi une des rares séries à faire de la place à des comédiens en situation de handicap.
Exactement.
Et là, une personne trisomique va intégrer l'équipe à la rentrée.
Et vous avez bien fait de le mentionner, Sophie Mathieu. Merci beaucoup. Christelle Chollet, dans un instant, Elsa Lévy, va nous rejoindre dans ce studio. Elle a pour mission difficile de lire la presse féminine pour nous. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Je vous propose d'écouter Mark Ronson et Miley Cyrus et Nothing Breaks Like a Heart sur Move.
Arrêtez, vous êtes trompés.
J'ai l'impression que je suis pas là sur la bonne fréquence ou un truc.
Allez, on essaie encore une fois. Allez, vas-y.
On va écouter un son qui n'est pas désagréable, c'est Beyoncé, Crazy in Love sur Europe 1.
Bah tu vois, quand tu veux, tu peux.
Lise Pressac.
Alors c'est très moche Loïc, parce que c'est un son de l'année dernière qu'il a été cherché,
là,
et c'est du montage et
c'est
très très moche. Il est 9h53 sur Europe 1, le club de l'été se poursuit avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet. Je vous présente Elsa Lévy.
Bonjour,
elle a pour tâche difficile, très difficile tâche,
extrêmement
de lire pour
difficile.
Nous la presse féminine pour en retirer le meilleur. Quel est le programme aujourd'hui Elsa?
Alors aujourd'hui je vais vous parler collant en nylon, démaquillant et spiritualité.
Ah waouh, tout ça.
Ça va avec, ça va ensemble. Il y avait un petit extrait qui
dit... Il dit qu'il voit pas le rapport.
Normal, il n'y en a pas.
Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça.
Si, il y en a un, c'est que les magazines sont remplis d'astuces dans tous les domaines pour nous faciliter la vie au quotidien. Et à force, je trouvais ça dommage de ne pas en partager certaines avec vous. Après ça, je vous garantis que socialement, on ne pourra que vous dire...
T'es OK, t'es bad, t'es...
Alors, quel genre d'astuces?
Eh bien, des astuces d'utilité publique. Par exemple, dans le magazine Maxi, on me donne des idées pour réutiliser mes collants en nylon. Et c'est vrai que cette question me hante depuis toujours. Mais comment puis-je bien réutiliser mes collants en nylon? J'en dors plus. Parce que c'est super d'innover avec des collants ventre plat, sensation spa, toucher soyeux, jambes élancées et compagnie. Mais il faudrait peut-être un jour innover dans la fibre, de sorte à ce qu'on puisse juste les enfiler sans qu'ils
se déchirent. Oui, déjà, ça serait pas mal. Surtout, ouais. En attendant, une fois qu'ils sont bons à acheter, et qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors, première astuce, je peux utiliser mes collants pour protéger les melons des insectes.
Mais ça dépend s'ils sont utilisés déjà ou pas, s'ils ont été lavés, tout ça.
Enfin, oui. Non, ça, c'est pas grave.
Niveau hygiène, comment dire.
On n'aborde pas le sujet. Okay. Il suffit, collant sale ou pas, de fourrer chaque melon dans un pied
s'il
de collant.
S'il vous plaît, mademoiselle.
Et suspendre. Vous avez l'esprit mal tourné.
Non, pas du tout.
C'est vous qui avez dit fourrer, hein. Ouais. C'est pas nous.
Non, c'est pas moi, c'est le magazine Maxi. En
c'est
fait.
Vrai.
Et le melon au porton fait comment enfin,
c'est bah. Ça.
C'est compliqué.
Alors, on suspend le melon dans le collant à un pieu. Lorsque le melon grossit, le collant s'étire et évite
c'est
au melon.
Une
Mais tout ce qu'elle dit est vrai.
Là,
et dans la presse,
en plus, je cite, hein, c'est vraiment pas mes mots, c'est pas ma phrase. Évite au melon de toucher la terre humide et d'être attaqué par les insectes.
Le lynx.
Très pratique aussi. On peut organiser sa valise en roulant nos vêtements dans les collants. On va gagner de la place dans son bagage. Alors, je ne sais pas si vous avez l'image en tête d'une valise où tout est confiné dans des collants noirs en nylon, ambiance Dexter de seconde zone. Donc, avec ça, il faudra juste éviter les contrôles à l'aéroport. Ça risque d'être un peu louche.
Oui, voilà. Autre chose avec les collants, Elsa ?
Oui, dans le magazine Nous Deux, je trouve l'article Il fait tout le vernis à ongles.
Oui, mais vous cherchez la merde aussi.
Oui, c'est ça. Je lis la presse féminine. Quoi, ouais, c'est ça. Donc, on me dit que le vernis à ongles permet justement de venir à la rescousse d'un collant filé.
Ah, mais ça, tout le monde le sait. Ben
oui. Ouais, mais c'est une astuce qui aurait pu nous éviter l'article d'avant.
Et c'est vrai.
C'est juste ça. Donc, en effet, il suffit de déposer un peu de vernis sur la maille abîmée et le tour est joué.
Oui. Mais c'est pas tout.
Bah oui, parce que
c'est. Alors, il faut pas le faire sur soi, parce que moi, ça m'arrive.
Oui, mais je l'ai fait sur
moi, ça marche
pas.
J'ai plein de marques de vernis à ongles sur les jambes.
Ça colle un peu. Oui, merci pour la deuxième astuce.
La deuxième astuce.
C'est cadeau.
Alors, sinon, avec du vernis à ongles, je peux refaire le monde. On peut l'appliquer sur nos bijoux pour les faire briller, c'est magique. On peut aussi en mettre sur le bout de nos chaussures, elles s'abîmeront moins vite. Si votre salière coule trop fort, Christelle, pas de panique, on bouge quelques trous avec un peu
mais
de
non,
vernis.
Mais non, mais c'est chimique comme tout, le vernis.
Mais c'est vrai,
non, une fois qu'il est sec, c'est pas grave. Et même pour le courrier, pour éviter que la pluie efface l'adresse.
Il peut y avoir des pâtes au vernis, c'est génial.
Ah oui, aussi. Alors pour l'adresse, on met un peu de vernis dessus, ça préservera de l'humidité.
On a d'autres... Ah oui, pardon. C'est incredible, je la connaissais pas cette chanson de Céline Dion. On a d'autres astuces.
Oui, toujours dans cet esprit de donner une deuxième vie à nos objets. Vous avez une doudoune et vous ne savez plus quoi en faire. Eh bien, pas de souci. Avec Modes et Travaux, on a le tuto. Je transforme ma doudoune en pochette.
Ah non, même pas.
Alors, dommage que je puisse pas vous montrer le visuel, hein, parce que c'est vraiment...
Magnifique, ma chérie.
Je me demande même pourquoi la haute couture ne l'a pas fait plus tôt. Après, si on ne sait plus comment s'occuper dans la vie et qu'on tourne en rond, j'ai une autre astuce. Dans pleine vie, on me propose de faire de la peinture sur galets.
Bien sûr.
Alors, très simple, hein, je vais me balader dans la nature, je ramasse des galets et je les peins. Ensuite, on me dit que je peux décorer tout mon intérieur avec les galets. Alors, cette astuce, j'annonce d'office la faillite du magazine Maison Déco. Et avis aux designers et décorateurs d'intérieur, vous pouvez déjà aller pointer à Pôle emploi, il va y avoir la queue. Parce qu'avec ça, je pense qu'on est... Sinon, j'ai une astuce beauté dans Viva. On nous donne 7 coiffures pour paraître plus jeune. Donc, on a le carré, l'arrêt au milieu, les cheveux longs, le chignon, la mèche sur le côté. Bref, on a un peu tous les styles. Donc, conclusion, ne changez rien. Et toujours dans les astuces beauté, chez Avantage, j'ai l'astuce flûte, je n'ai plus de démaquillant. Alors, pas de souci, on passe de l'huile de jojoba sur les yeux. Bon, il n'y a pas l'astuce flûte, je n'ai pas d'huile de jojoba.
Oui, parce que c'est plus probable.
Mais on sort du principe qu'on en a. Ensuite, on rince l'huile, puis sur la zone humide, contour de l'œil compris, on applique du miel. Et s'il est trop compact, on mélange avec un yaourt nature. Et là, on se dit, flûte, c'est une tannée. J'irai me coucher sans me démaquiller.
Voilà, un dernier conseil, Elsa ?
Oui, pour votre libido cette fois. Je suis retombée sur Cosmopolitan du mois de juin, qui nous donne des techniques spirituelles pour atteindre l'orgasme sans se toucher.
You can't touch this.
Alors, comment faire ? Je cite. Il faut s'allonger, les bras le long du corps, et on écoute son désir monter. Même si l'envie de se toucher grandit, on tient bon et on laisse le désir nous envahir, notre corps s'agiter de plus en plus fort. Bon, j'ai arrêté là la lecture, hein, parce que concrètement, ça m'a l'air d'être une technique bien compliquée de masturbation. Si on peut maintenir 2-3 trucs simples dans la vie, ça m'arrangerait. Alors, si jamais, avec tout ce que je viens de vous dire, je vous agace, ou pire encore, ça vous fait râler, eh bien tant mieux, car figurez-vous que dans Prima, il paraît, selon des chercheurs, que râler est bon pour la santé, ça renforcerait notre système immunitaire. Alors, soucieuse de votre
santé. Mon mari est jamais malade en fait.
Oui, c'est
voilà,
ça. On a le secret.
Et cette chronique, c'était ma façon de faire une astuce. Bonne santé.
Merci beaucoup Elsa Lévy. On vous retrouve vendredi. Restez avec nous. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. À tout de suite.
9h, 11h. Le club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Cholet. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas de série, Christelle.
Voilà, je me sens moins seule, merci beaucoup.
Vous êtes une armée en fait.
Merci.
Sophie Massieu, grâce à vous, nous allons faire un tour en Alsace. Où exactement ?
Ah ben non, je ne vous le dirai pas.
Mais par contre, j'essaye.
Mais
hein.
Par contre, chaussez vos espadrilles de randonnée, ça je peux vous le dire.
Ah,
quand même.
Des espadrilles de randonnée. Ouais. Très bien. Bon, je fais ça.
Sans
alors.
Chaussettes.
Sans
attention.
Chaussettes, évidemment. Sophie Muntz, on ne mange pas aujourd'hui, on boit.
Oui, moi je vous le dis carrément, on va boire Riesling, Wustraminer, on va s'en donner à cœur joie avec modération,
évidemment,
toujours bien entendu.
Toujours.
Découverte du vignoble d'Alsace et puis je vous donnerai les conseils pour réussir une bonne carbonara.
S'il vous plaît.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Christelle Chollet, je vous propose un petit voyage dans votre vie en musique grâce à notre machine très spéciale. On a des énormes moyens, comme vous pouvez l'entendre.
À remonter
sur
le temps, comme, exactement. Comme les Bogdanov à l'époque.
Ouais, mais en musique, c'est encore mieux. Très Est-ce bien. Que vous savez quelle musique on fredonnait en 1972, année de votre naissance?
Il devait y avoir... qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts, non?
Ah, ça aurait pu. Autre style.
C'est
Jérôme Kiss Me.
Pas de nom, Sophie, s'il vous plaît. Pas de titre de chanson, s'il vous plaît.
Non, on ne balance personne. En 97, quand
moi,
je
balance rien, je pose une question.
Ça pourrait.
En 97, quand vous débutez aux côtés de Jean Marais et Bernadette Lafont aux Folies Bergères dans L'Arlésienne, mise en scène par Roger Louret, alors l'été, on dansait plutôt là-dessus. Alors vous qui aimez les chorés, vous êtes servi parce que là il y avait même Mia Fry, la chorégraphe,
dans le clip,
il y avait
des
trucs avec des bras.
Mais à chaque époque c'est chanson de merde aussi, on n'est pas forcément que dans les années 80.
On est d'accord.
Je dis ça, je dis rien.
Voilà, et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y en a. Enfin, quand en 2006 vous commencez à jouer l'empiaffé, l'été on chantait très fort là-dessus. Vous vous rappelez?
Mais pas du tout moi.
Vous vous rappelez de Tribal King, c'était façon sexe?
Écoutez, non, moi je ne me rappelle pas du tout.
Et ben moi
je
ne
sais pas.
Vraiment,
ça, alors, j'ai zappé cette chanson.
Oui, bon, écoutez, pourquoi
c'est pas grave, bah,
non, ouais, je pense qu'ils ne vous en veulent pas du tout. Tribal King. Ah, écoutez, en tout cas, à voir, c'est un lapsus puisqu'on écoute aussi votre spectacle. Vous écoutez autant du C. Jérôme que du West, que du Tribal King. Les influences viennent un peu de partout, notamment.
Ah, j'écoute pas C. Jérôme, mais j'écoute pas. Non. Excusez-moi, Lise, mais là.
Les gars, c'est pas centré.
Il y a des choses sur lesquelles.
En revanche, quand vous demandez des chansons de merde au public, vous. Quand on vous en demande, vous savez
oui,
les chanter.
Est-ce qu'on vous demande souvent les mêmes? Ça, c'est
énorme. Oui, on me demande. Alors, il y en a pas mal qui tombent. Et alors, vous voulez que je vous donne les chansons qui reviennent?
Moi, j'en ai très envie. En tout cas.
Alors, il y a la Rousseau qui revient souvent. Mais je pense plus que c'est quand je parle de ça, c'est pas forcément des chansons, parce que je dis vraiment, c'est des chansons sur lesquelles on a beaucoup dansé, qu'on a beaucoup chanté. Et 20 ans plus tard, on prend du recul, on s'y oups. Et les gens balancent des chansons sur lesquelles ils ont chanté et dansé et qui leur rappellent.
Mais la Rousseau, c'est pas merde. Enfin, c'est
mais
ça.
Non, mais en plus, mais surtout, on les connaît encore jeunesse.
C'est vrai,
quoi.
Tu oublieras tout.
Oui. On les connaît encore par cœur 15 ou 20 ans après, en plus. Donc,
Après, il y a Tata Yo-Yo de temps en temps. Mais encore une fois, c'est les gens qui se lâchent et qui. Alors parfois, ils confondent le sketch. Parce que je leur demande de. Je dis que c'est une thérapie de groupe.
Oui, c'est ça. Donc, les gens se présentent comme les alcooliques anonymes.
Exactement. Je dis, allez, tous ensemble. Bonjour Michel. Toute la salle crie. Et alors parfois, ils confondent le sketch. Ils pensent que c'est un karaoké. Donc, ils me demandent les chansons qu'ils ont préférées. Alors, je dis, stop, attention. Attention, on n'est pas là pour faire un karaoké.
Oui,
on est
non
là
plus. Il ne faut pas tout confondre. En tout cas, on l'a vu, on le voit dans votre spectacle, on l'a vu en faisant ce petit éphéméride. C'est un marqueur d'époque quand même, la musique. Hein.
Ah mais alors, mon spectacle parle de ça, et la musique est un marqueur de temps, parce que la musique fige le temps. Voilà, on sait que les années 60, c'est la génération du rock, et les marqueurs de temps, c'est la musique, mais c'est aussi les objets. C'est pour ça que dans mon spectacle, le décor, c'est un ghetto blaster, c'est-à-dire un gros poste de radio. Parce que quand même, à l'époque, dans les années 80, on écoutait de la musique avec un ghetto blaster sur l'épaule, même dans la rue.
Oui.
Ça avait beaucoup d'avantages. Ça mettait de l'ambiance à la rue.
Je crois qu'on demande ça aux gamins aujourd'hui. Mais c'est quoi
En revanche, si t'avais des gouttes chaudes, tout le monde le savait.
On avait des cassettes aussi.
Ça, on pouvait...
Mais oui, c'est ça.
On pouvait pas se planquer avec les écouteurs.
Ça, c'est un marqueur de temps.
Ça, c'est vrai.
On parlait des marqueurs de temps, les enfants de tes amis, on s'en en parlait tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Les cassettes, ils connaissent pas forcément. Bon, après ce voyage en musique, je vous propose de partir en Alsace. À tout de suite. Sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1, il est 10h13 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet, et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Muntz. Alors avant d'aller faire un petit tour en Alsace, Sophie Massieu, un mot de cinéma pour ouvrir votre journal de la culture.
Et absolument, parce que les vacances touchent à leur fin et donc les sorties cinéma retrouvent de quoi stimuler nos envies et notre curiosité, en tout cas je trouve. On parlait hier de Thalasso, dans votre club de l'été préféré, tout de suite aussi dans la pub, bref. Moi, j'en ai choisi un autre. Parmi les sorties de cette semaine, je choisis de vous parler du nouveau film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière. Je vous laisse découvrir un petit extrait de la bande-annonce.
Commissaire Daouda, centrale. Il y a un véhicule en feu rue du Grand Chemin vers le numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici une heure.
J'ai bien reçu pour PC. Et joyeux Noël, patron.
Oui, joyeux Noël. Vous avez des suspects pour la maison brûlée?
Ça commence. Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent?
Toujours.
Tu n'es pas noté sur les résolutions de cas. Tu es noté si tu maintiens l'ordre. Alors maintiens l'ordre.
Le réalisateur s'inspire ici d'un fait divers réel datant de 2002 et qui avait par ailleurs fait l'objet d'un documentaire. On est dans sa ville natale, hein, par ailleurs. Oui. Alors, Marie, Sarah Forestier et Claude, Léa Seydoux, sont deux jeunes femmes qui sont à la fois victimes et bourreaux. Alors, ce qui est très mal, c'est qu'elles ont assassiné leur vieille voisine. Ce qui n'est pas de leur faute, c'est qu'elles vivent dans une situation compliquée. Et Roche Dizem, qui interprète Daoud, le patron de la police locale, devra élucider cette affaire, démêler tous ses écheveaux. Vous comprenez que c'est une histoire où le manichéisme du style « les bons sont d'un côté, les méchants de l'autre » ne trouve pas vraiment sa place.
Ouais, ça a l'air très très bien. On part maintenant à Woodstock, Sophie.
Oui, et en plus, en 1969, voyage dans le temps, dans l'espace. Moi, je vous le dis, Europe 1 a les moyens. Figurez-vous, Lise, que nous pourrons fêter le 50e anniversaire de ce grand concert événement dans...
Alors,
Bourbonnais.
Ah ouais, bah, j'aurais pas pensé.
Le Bourbonnais. Et ben voilà, je vous l'apprends. L'association d'éducation populaire, la Djimbrté, organise un concert avec des groupes locaux qui, en plus de leur propre titre, interpréteront quelques morceaux emblématiques de ce rendez-vous mythique. Evil Waves de Santana, par exemple. Alors, le concert Peace, Love and Music en Bourbonnais, ce sera le 14 septembre. C'est pas tout de suite, mais notez-le bien. C'est de 14h à 23h à la Grange Corgenay à Neuvy. Tout ça, ça se trouve dans l'Allier. L'entrée sera gratuite. On vous conseille, si vous pouvez, de revenir en ayant retrouvé votre look hippie.
Ah oui, voilà.
Est-ce que je vous coupe, Sophie, parce que vous avez vu ce reportage incroyable sur Arte, sur Woodstock, qui dure 2h30.
On en a parlé. Exceptionnel. Et voilà, c'était Martin Scorsese qui montait le documentaire. Ça durait même plus longtemps, je crois, 3h40.
Il faut ça peut être un bon complément d'aller se marrer en bourbonnette, se déguiser en hippie.
Aussi, hein,
oui. Il peut y en avoir en septembre, ça peut le faire en Allier, je pense, dans l'Allier. Si vous voulez plus d'informations ou réserver, ça boîte gratuite, c'est bien de se signaler, vous pouvez téléphoner au 04 70 20 83 84. 04 70 20 83 84. Je ne vous l'ai pas fait avec la voix.
Oui, c'était sobre aujourd'hui.
Non, mais il y a d'autres numéros, je vous en ferai d'autres.
Très bien, avec plaisir. Il fait souvent l'objet de polémiques, mais pour prendre du recul, vous nous proposer Sophie de visiter une exposition sur le voile.
Alors oui, bon, je suis d'accord, on s'éloigne un peu du look hippie, vous le concède.
Certes.
Mais ce voile, il a connu, et depuis l'Antiquité, vraiment une foule de formes, d'usages, de tissus. L'exposition Dévoilée ES, nous en présente une grande variété. Elle rappelle quelques fondamentaux. Un, d'abord, les musulmans ne sont pas les seuls à en avoir un usage religieux. Les chrétiens aussi, par exemple pour les communions, ou bien les moines et les sœurs dont on dit qu'ils et elles prennent le voile. Autre rappel utile donc, aussi, les hommes en portent ou en ont porté. Les femmes ne sont pas les seules.
C'est vrai.
Et puis, parmi la centaine d'œuvres qui sont exposées, donc des photos, des sculptures, des gravures, etc., on trouve aussi des voiles qui ont été utilisés dans des mises en scène. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est tantôt pour symboliser la pudeur, la vertu, et tantôt, au contraire, l'érotisme. Donc, c'est vraiment très amusant de voir comment un seul objet peut avoir mille vies. Des visites commentées sont proposées les 1er, 8 et 29 septembre, gratuitement, une fois l'entrée au musée acquittée. C'est sur inscription. Ce sera à 15h. Un stage, par ailleurs, est proposé aux enfants. Ça, c'est la semaine prochaine. C'est intitulé « Dévoile ton talent ». C'est donc du 26 au 28, du lundi au mercredi. Le but, c'est quoi ? Fabriquer son propre voile. Et vous savez quoi, Lise ? Un défilé de mode sera organisé.
Carrément.
Ce stage, il coûte 45 euros. Pour s'inscrire, allez, je vous le fais.
Ah.
Pour s'inscrire, 04 74 22 83 83. 04 74 22 83 83.
Ah, j'adore.
Voilé, c'est donc dans un monastère, s'il vous plaît, au monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse. C'est jusqu'au 29 septembre et c'est ouvert tous les jours de 9h à 18h. L'entrée, elle est à 7 ou 9 euros selon que vous méritez ou pas le tarif réduit.
Voilà. Merci beaucoup, Sophie Massieu. Christelle Chollet, est-ce que vous êtes allée à Avignon cette année ? Je sais que vous êtes attachée à ce festival.
Absolument, j'adore y aller. J'y ai joué beaucoup quand j'étais très très jeune.
À 18 ans ?
Au 18, 19, 20, 21, enfin un peu au début de ma carrière. Et puis oui, j'adore y aller. Je suis allée voir plein de choses là-bas. J'adore emmener ma fille. Je suis allée pour voir des spectacles pour enfants justement, pour mon théâtre. J'ai vu des choses formidables, des choses moins bien, mais des choses formidables.
Il y a de tout, de toute façon.
Puis c'est magique, je sais pas, il y a des parades dans les rues partout, tous les comédiens sont dehors l'après-midi. C'est une ambiance très, très particulière que j'adore.
Et vous allez voir les copains aussi
ou... Bien sûr, parce que très régulièrement, on se retrouve pour le Festival d'Avignon, parce qu'on se voit pas à Paris, on se voit 3, 4 jours, 5 jours, le temps qu'on y reste dans le sud. Donc c'est très, très, très agréable.
Ça permet de voir aussi tout le monde au même endroit chaque été. Alors avant de prendre la route, non pour Avignon, mais pour l'Alsace, je vous propose d'écouter Redbone avec Come and Get Your Love sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
Il est 10h23, c'est la suite du club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Mounce. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Cholet. Alors Christelle Cholet, vous êtes originaire de Toulouse et donc Sophie Massieu, vous avez choisi de nous emmener en Alsace.
Ouais,
très
c'est bien. Alors du Tarn, je suis née à Toulouse, mais j'embrasse mon village du Tarn qui s'appelle Thoriac et j'ai tout mon papa, j'ai ma maman à Lille-sur-Tarn. Enfin, c'est vraiment le Tarn qui est mon berceau.
Bon, alors salut votre village.
Voilà, ouais. On fait un bisou à papa Cholet, à maman Cholet. Ouais. Mais moi, je vous emmène quand même en Alsace parce que c'est une région où on n'est pas allé beaucoup user nos espadrilles cet été. Dans votre rendez-vous préféré du club de l'été, nous allons donc, putain que vous voulez savoir, Lise,
oui,
sur le Mont Saint-Odile. Tout là-haut, nous attend Inès jeudi. Elle est guide, elle est parfaite connaisseuse de la région. Bonjour madame.
Bonjour.
Oui. Alors, on part d'abord quand on arrive sur ce mont. Peut-être on commence par la visite du couvent qui a été fondé par Saint-Odile, donc qui a donné son nom au mont au 8e siècle. Est-ce qu'on commence par visiter ça?
Tout à fait. Alors, le mont Saint-Odile est un lieu emblématique puisque c'est le deuxième lieu le plus visité du Bas-Rhin avec 1 300 000 visiteurs par an.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'il y a de beau?
Pour la beauté. Alors déjà, la beauté du lieu, il est dressé sur un éperon rocheux de 764 mètres de haut et il offre une vue absolument imprenable sur la plaine d'Alsace avec la cathédrale de Strasbourg, au-delà du Rhin, la forêt noire que l'on aperçoit située en Allemagne et partant dégager les sommets alpins. Et le mont Saint-Odile doit sa renommée donc justement à Odile. D'après la légende, Odile est née aveugle dans la charmante ville d'Aubernais. Elle recouvre la vue à travers le baptême et fonde un couvent dont l'aura est restée intacte depuis le 8e siècle.
Et dans quel état il est ? Est-ce qu'on peut bien le visiter ? Est-ce qu'il est encore en bon état ?
Ah, parfaitement, puisque c'est un lieu où on se rend, où d'ailleurs... se pratique encore l'adoration perpétuelle. Alors l'adoration perpétuelle,
c'est
des groupes. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique également au Mont-Saint-Michel et à l'église de Montmartre. Ce sont des groupes d'adorateurs qui viennent des différents cantons d'Alsace qui se relaient chaque semaine pour prier sans interruption jour et nuit. Et donc c'est un couvent qui est encore magnifique puisqu'on a une hôtellerie et plusieurs
encore de l'activité, à la fois religieuse et économique. Et alors tout proche, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, qu'on appelle le mur païen dans notre genre. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous dire un petit peu quand il a été construit ? Puis je crois qu'il y a beaucoup de légendes aussi autour de lui.
Tout à fait, et surtout beaucoup de mystères. Alors le mur païen est une enceinte qui entoure le mont Saint-Odile, qui fait 10 km de long et à certains endroits 3 mètres de hauteur pour une épaisseur de 2 mètres. Il est dénommé mur païen puisqu'il a été construit avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, et c'est le pape alsacien Léon IX qui l'a baptisé ainsi.
Alors,
il a fait couler beaucoup d'encre aux historiens car on ne connaît ni sa date exacte de construction, ni sa fonction. On suppose qu'il a été construit entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ par le peuple celte qui occupait la région à ce moment-là. Quant à sa fonction, c'est un grand mystère. Est-ce qu'il était là pour protéger un lieu de culte païen ? Est-ce que c'était un oppidum, une place forte à vocation défensive ? La réponse reste à trouver. Alors ce mur est constitué par l'assemblage de blocs mégalithiques qui sont empilés les uns sur les autres et qui sont réunis par des mortaises à tenons en queue d'aronde.
Oh là là, vos souhaits, ça veut dire
quoi?
Ça
ressemble. Oui,
il faut nous expliquer, Inès.
Ce sont des encoches qui sont taillées sur chaque bloc.
D'accord.
Des encoches qui se font face et dans lesquelles on insère des tenons en bois de chêne.
D'accord.
Et qui permettent donc d'assembler, de tenir ce mur.
Et aujourd'hui,
puisqu'il
on en voit encore
des
grandes, grandes parties. Il a tenu le choc tous ces 25 siècles.
Alors, il a bien sûr, il a été très abîmé parce que certaines pierres ont servi à la construction de châteaux qui entourent le mur.
On a perdu Inès, ah, jeudi, voilà. On vous avait perdu Inès.
Oui, il a servi à la construction de châteaux, vous disiez, on vous a perdu 30 secondes.
Oui, alors il a servi donc ces pierres, des parties de pierres ont servi à la construction de châteaux. Il a été aussi abîmé pendant les différentes invasions, mais il a subi plusieurs phases de reconstruction, dont une par les Romains, lorsque les Romains occupaient l'Alsace, l'autre à l'époque du duc Adalric, qui est le père de Saint-Odile, et ensuite lors de l'invasion des Huns à la fin du 9e siècle, du 10e siècle.
Très bien, merci beaucoup Inès Jeudi. On n'a plus qu'à partir sur le Mont Saint-Odile pour voir ce couvent, ce mur. Il y a de très belles randonnées possibles autour de tout ça.
Voilà,
on arrive.
Merci beaucoup.
Parce qu'il y en a pour
merci
tous les goûts
merci.
Et en toutes les saisons.
C'est parfait.
Dans le Bussama, comme on dit chez nous.
Merci beaucoup,
merci.
On l'aura compris. Merci Inès
Jeudi.
Je rappelle que vous êtes guide à l'Office du tourisme d'Aubernais. Dans un instant, Sophie Mounz va nous faire boire et ce sera l'épisode 2 de la nouvelle série de la semaine consacrée aux pâtes. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
On fait pas la programmation musicale, on a pas du tout la main là-dessus.
Elle ment à tout le monde. Pire, elle se ment à elle-même.
J'ai piraté la prog. Alors j'ai fait un putsch aujourd'hui parce que j'ai fait un truc que j'ai pas le droit de faire, j'ai modifié leur programmation musicale. Mais t'inquiète pas, tous les ans, j'enlève des disques, j'en change.
C'est vraiment incorrigible.
Lise Pressac.
Elle est pas mal ma programmation, non ? Voilà, la Rousseau.
C'est beaucoup mieux. Bravo.
C'est beaucoup mieux, on est d'accord. Merci beaucoup Christelle Chollet, c'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet. Est-ce que vous êtes gourmande, Christelle ?
Ah mais très, c'est terrible. Quand je parlais d'addiction tout à l'heure, je fais très attention parce que je goûte à tout, je suis très très gourmande. Je viens du sud-ouest et ma grand-mère était bretonne. Donc je peux vous dire qu'entre le beurre et le gras,
ça
va.
On mettait un peu de beurre et puis on rajoutait un peu de gras.
Ouais.
C'est quoi votre Madeleine de Proust culinaire ?
Alors,
justement votre grand-mère, enfin les...
Oui, c'est ma grand-mère, c'est les galettes de sarrasin, mais alors j'en ai une autre et j'y ai pensé parce que c'est la tartine de pain beurré avec du chocolat en poudre dessus.
Ah, je faisais ça aussi moi.
Alors
oui,
ça,
moi
aussi. C'est vraiment quelque chose qui rappelle
bon.
Mais vous venez de Belgique.
Ouais.
Donc vous c'est du maroilles ou des choses comme ça, non, au-dessus, non ?
Ah oui, c'est le nord ça.
C'est
ouais.
Le nord. Ouais. Ouais. Non mais au-dessus, c'était quoi sur votre pain quand vous étiez petite
Mais alors la poudre de chocolat, ça j'ai jamais entendu.
Ah, mais non,
la poudre
mais ça,
de chocolat.
C'est un délice sur le beurre ça,
c'est magnifique.
On en a tous mangé, je crois.
Et je pensais à ça. Alors ça vraiment ça me rappelle mon enfance, mes grands-parents.
Ah bah je suis d'accord. Moi je faisais aussi avec des vermicelles en chocolat, ça c'est pourtant un truc de chez vous en Belgique.
Ah oui, les granulés.
Les granulés en chocolat, ouais. Moi je les mettais aussi sur les tartines, alors ça je le fais toujours.
Bon,
ça
on va parler vin.
Oui,
si
voilà.
Ça ne vous dérange pas. Hein, parce que là...
Vous pensez qu'à picoler, Sophie.
Mais oui, allez-y Sophie.
On va parler vin, vous savez on a beaucoup parlé du vignoble français. Hein. Ce week-end on a eu quand même des avaries assez importantes. Notamment dans le Rhône, dans le Beaujolais. Bon, pour le Beaujolais, il y aura quand même des pertes au niveau de la production. Des viticulteurs qui ont vécu vraiment une journée noire, véritablement. Pour l'ensemble du vignoble français, on devrait quand même s'attendre, entre les épisodes de sécheresse, de canicule et les intempéries, on devrait quand même s'attendre à une diminution des volumes de production de l'ordre de 13%. Mais en revanche,
ah ouais, quand même.
Ce sera un beau millésime, puisqu'il y a quand même des taux de sucre assez intéressant. Mais aujourd'hui, effectivement, direction et cap vers l'est, l'Alsace. Ah oui !
Ah bah oui, on se met dans l'ambiance, Sophie.
Oui. C'est joli, joli. On en parle de ces vignobles alsaciens avec un grand spécialiste, Patrick Botcher. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le co-auteur de cet ouvrage devenu référence hein, depuis Tronche du vin, le guide des vins qui ont de la gueule, rien que ça, aux éditions de l'Épure. Alors, bonne nouvelle du côté de l'Est, l'Alsace se porte bien, très bien même, on peut le dire ?
Elle se porte bien, très bien. Disons qu'elle a un peu échappé aux grosses intempéries, aux gros épisodes climatiques que les régions que vous venez de citer ont subis.
Oui.
Et c'est un peu grâce au bouclier que forment toujours les Vosges, même si, avec le réchauffement climatique, il a tendance à s'affaiblir. Donc, globalement, les dernières pluies, les dernières semaines, les derniers jours ont fait beaucoup de bien parce qu'effectivement, il y avait de la sécheresse qui était présente.
Bien sûr. Alors, côté image, évidemment, de ce vignoble alsacien, ce sont les cépages. On pense évidemment au Riesling incontournable, au Cuvée Straminer, au Muscat. Racontez-nous ces cépages.
Alors, évidemment, il y a le cépage roi, qui est le Riesling, qui est un cépage très acide, qui a en fait une durée de vie qui est bien supérieure souvent à des grands vins rouges, et qui bien donc sûr. Reste quand même le cépage emblématique des grands crus alsaciens. Aujourd'hui, le Cuvée Straminer et le Pinot Gris, qui avaient un peu perdu de terrain parce qu'on aime de moins en moins quand même boire relativement sucré, retrouvent des couleurs parce que les vignerons les reproposent maintenant de façon beaucoup plus sec, donc avec beaucoup moins de sucre résiduel qu'il y a 10-15 ans. Et du coup, ben, ça redonne un intérêt à tous ces cépages sur les grands crus. Il y a quand même quelque chose de notable et qui est très important, c'est que de plus en plus de vignerons reviennent à la complantation ou bien aux assemblages. Alors, en vitesse, la complantation,
oui, on plante différents cépages.
Mélanger des cépages sur les parcelles et les vendanger en même temps, tandis qu'un assemblage, on va récolter les différents cépages séparément et on va les assembler au fur et à mesure du temps ou bien après l'élevage classique d'un an ou deux ans en cave.
Étonnant. Alors, côté viticulture, Patrick, on peut le dire, l'Alsace continue une intense conversion au bio. Et là, évidemment, ça titille ma curiosité d'épicurienne. J'adore les vins nature, les vins durables, on peut le dire. Et c'est particulièrement vrai en Alsace.
Oui, oui, tout à fait. Si on enlève un peu les coopératives qui restent plus ou moins sur une viticulture dite conventionnelle, on atteint très facilement chez les vignerons indépendants 90%, 90% pardon, de viticulteurs qui sont minimum en bio.
Pas mal.
En biodynamie ensuite et aussi qui pratiquent des vinifications naturelles. Alors pas toujours à 100%, mais de plus en plus de ces vignerons en bio et en biodynamie ont un focus vers la vinification naturelle qui utilisent le moins de sulfites possible et surtout on n'utilise pas les autres intrants. Ouais, donc c'est quelque chose qui fait du mieux au cœur.
Oui, parce qu'il faut le savoir, il y a encore un gros travail en matière de la viticulture. C'est quand même le pan de l'agriculture, on peut le dire, qui est le plus impactant en termes d'intrants chimiques. Donc l'Alsace, pour le coup, se démarque formidablement bien. Voilà, déguster ces Riesling, ces Cuvée Straminer, ces magnifiques Muscat, ces Pinot qui aujourd'hui sont beaucoup mieux dosés. C'est que du bonheur. Patrick Botcher, on vous retrouve dans Tronche du vin, les guides des vins qu'ont de la gueule aux éditions de L'Épure. Grand merci Patrick.
Et on attend vos bouteilles.
Et santé bonheur.
Bonne journée.
Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1 et je vous propose maintenant de partir à la découverte de trois nouvelles destinations hors de l'Alsace. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet. Est-ce que vous voyagez beaucoup, Christelle, en dehors de la tournée, je veux dire, pour vous reposer, pour vous poser un peu, ça arrive quand même ou...
Oui, ça arrive. Je suis partie avec ma fille et mon mari à New York cet été. Non, pas cet été, il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas l'été. Mais je sais plus où j'en suis. Mais oui, c'est bien sûr, ça m'arrive, mais on est beaucoup en tournée. Oui. En France, en Belgique, en Suisse. Donc, oui, mais j'aime bien partir.
Ouais, loin ou en France aussi, ça vous arrive ?
Ah, en France, beaucoup. Ouais. Mais j'aime bien le dépaysement. Mon rêve, là, c'est le Costa Rica. J'aimerais beaucoup aller au Costa Rica.
Ah, très vert.
Ouais, c'est une biodiversité
incroyable.
Là-bas. C'est pour ça que j'aime bien aussi aller sur mon île, c'est pas la mienne du tout, hein, de Porquerolles, et les îles de Porquerolles, parce qu'il y a une biodiversité, parce que c'est des réserves naturelles.
On en parlait hier de Porquerolles.
Oui, exactement. Ouais. Bah, grâce à Sophie Massieu, on va découvrir trois nouveaux lieux. Et aujourd'hui, on emprunte un mode de transport pas si banal.
Alors oui, on en trouve dans les villes parfois, mais à la montagne souvent, en tout cas, généralement pour s'élever en altitude ou comme à Brest, pour traverser des cours d'eau. Vous avez compris, je vous propose de découvrir ou redécouvrir aujourd'hui des funiculaires.
Ah, et on commence par celui qui franchit la pente la plus raide.
Oui, 83%, vous imaginez ?
Oui, j'imagine, oui, ça fait un peu peur.
C'est assez dingue. Ce funiculaire, c'est celui de Saint-Hilaire du Touvet, dans l'Isère. En bas, un petit village, Limbin, et en haut, cet autre village donc de Saint-Hilaire. Sur le plateau des Petites Roches, nous sommes là, dans le massif de la Chartreuse. Bon, alors, vous n'allez pas faire que monter pour redescendre, hein, c'est un peu stupide.
Non.
Donc, même si le funiculaire vaut la peine, une fois là-haut, vous avez donc des parcours de randonnée qui sont sont possibles, seules ou pour les plus longues et les plus riches en informations, possiblement accompagnées d'un guide de montagne. Comme vous pouvez aussi prendre votre vélo à bord du funiculaire, vous pouvez imaginer d'aller donner quelques coups de pédale et quelques coups de sonnette là-haut. Alors attention, les vélos électriques, eux, ne sont pas admis au sein du funiculaire. Bon, alors ce funiculaire, vous vous rendez compte, il a bientôt 100 ans. Moi, je trouve ça assez fascinant d'imaginer qu'on ait pu ouvrir une chose pareille en 1924. Enfin, c'est, bon, c'est une belle prouesse technique quand même. Les tarifs cette année, eh bien, au plus, je ne vous fais pas tout le détail des tarifs, mais au maximum, les adultes qui payent le plus cher, donc voilà, hein, nous, ça coûte 17,20€ l'aller-retour. Notez que si vous le tenez en laisse, ça peut vous intéresser, Christelle. Toutou chéri, lui aussi, il peut être de voyage.
Oui. Accepté.
Ah, c'est sympa.
Oui. J'amènerai Jean-Michel sur le funiculaire.
Voilà, c'est le nom de votre chien, je
précise. Oui, c'est mon chien, c'est pas mon mari. Voilà. Jean-Michel, c'est mon chien.
Mais pourquoi vous l'avez appelé comme ça?
Demandez à mon mari, c'est un hommage. Non, je vous dirai pas à quel Jean-Michel, cherchez, voilà. Mais...
On va se fâcher avec les Jean-Michel, sinon. Vous avez aussi une autre trouvaille à nous proposer, Sophie. C'est un funiculaire enterré.
Oui, absolument, notamment pour causer un petit peu moins de dégâts sur l'environnement et puis aussi pour pouvoir monter au glacier, quelles que soient les conditions météorologiques qui peuvent être là-bas assez costauds, parce que voilà, nous sommes très très haut dans le domaine skiable savoyard de Tignes. Et ce funiculaire, il a été baptisé joliment Perce-Neige. Il vous fera grimper quand même 1000 mètres en 7 minutes, là aussi ça donne un peu le vertige, pour vous amener à l'altitude de 3032 mètres. Ah, prévoyez une petite laine, hein, oui. Parce que là-haut il fait quand même bien plus frais qu'en bas. Et bien alors une fois là-haut, vous pouvez évidemment déjà respirer. Du bien, mais aussi skier ou vous offrir une petite pause au restaurant panoramique.
Chouette.
Je me demande bien ce que vous choisiriez, Sophie.
À votre avis.
Je crains de le savoir. Non, Sophie, elle irait manger.
Bah oui. Direction le sud-ouest. Évidemment. Pour la dernière expérience en funiculaire.
Oui, et en ville, cette fois à Pau. Ce funiculaire, il relie la gare. Absolument, au très actif boulevard des Pyrénées. C'est une espèce de métro local en somme, mais lui, il est gratuit. Il y a des départs toutes les 3 minutes quand je vous disais que c'était un transport en commun. Du lundi au samedi, vous pouvez en plus l'emprunter sur des plages horaires relativement importantes, hein, donc on peut même le prendre pour aller bosser. De 6h45 à 21h40 le dimanche, c'est juste l'après-midi uniquement, entre 13h30 et 20h50. Lise, je suis désolée, je ne suis pas complètement sûre que ce soit hyper adapté à vous. Qui est atteinte de claustrophobie, mais enfin, je sais pas, vous me suivez
vrai,
quand même.
Bah, moi, avec vous, je tente tout, Sophie. Ouais, un peu,
ah,
ouais,
ça me fait plaisir.
Ouais,
pas... oh, mais c'est grand un funiculaire, c'est quand même pas un ascenseur, quoi. C'est...
Ouais, c'est vrai, mais même c'est un avion, moi, je suis pas très bien dedans. C'est grand un avion.
C'est pas un funiculaire, un avion, vous savez. C'est pas hyper relié.
Non, mais
ça va en l'air aussi, mais encore plus.
Ouais, c'est vrai. Ça me fait un peu peur, mais bon, avec vous, je tente, Sophie. Voilà,
super, je vous emmène.
Quant à l'application du jour, elle va surtout intéresser les sportifs.
Oui, mais alors, quel que soit votre niveau, en fait, que vous soyez un pratiquant occasionnel ou régulier. Elle s'appelle Urbanair. Le but consiste à se fixer un objectif à atteindre. Alors, par exemple, améliorer une performance, parcourir une plus longue distance, etc. Et le faire en s'amusant, donc en relevant des défis. L'application, elle vous produit autant de tableaux statistiques qu'on peut en imaginer et peut-être même plus encore. Et puis, si vous invitez vos amis, vous pouvez vous comparer à eux et donc, si vous avez besoin de ça pour vous motiver, vous comparer à eux peut vous aider finalement, en tout cas si vous avez l'esprit de compétition.
Ouais.
Alors, cette Urbanair, elle marche aussi bien pour le footing que le vélo, que le roller, le ski de rando. Enfin voilà, vraiment, quand je vous disais qu'il y en avait pour tous les goûts. Bon, un petit ombre au tableau selon moi. L'application, bien sûr, elle est gratuite, mais l'esprit commercial, il est quand même pas bien loin parce qu'on vous promet des tas de cadeaux envoyés par des partenaires.
Ah, voilà. Bah oui.
Mais bon, je trouvais quand même assez l'idée assez rigolote de faire du sport en s'amusant, en se comparant aux copains.
C'est vrai, puis de faire plein d'activités physiques aussi.
Ouais,
ouais, c'est pas mal. Vous retrouvez évidemment toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site d'Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous écrivez à Sophie Mounz, à Sophie Massieu ou à moi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dans quelques minutes, avec Sophie Mounz, on continue notre semaine consacrée à la pasta. Et avant ça, on écoute Jeanne Chéral avec l'an 40 sur Europe 1.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Oh.
Soyeux, moelleux, satiné, velouté, croustillant, fondant, onctueux, doux, crémeux, suave, que d'orgasme en bouche.
C'est le sexe à l'état pur.
Mmh. Oh. On se lèche les doigts après et tout. S'il vous plaît, un petit peu d'intimité, merci.
Mmh. Oh, oh. Je fantasme là.
Oh là là, c'est indécent.
Non mais c'est n'importe quoi.
Mon Dieu. Je vais plus ouvrir la bouche.
Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ai le droit
c'est
d'être
jingle. C'est de la manipulation intellectuelle.
Loïc, je t'en supplie, moi je n'ai rien fait. Écoutez. Je n'ai rien fait Loïc, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute.
Le Club de l'été se poursuit avec notre invitée l'humoriste et chanteuse Christelle Cholet. Est-ce que vous cuisinez Christelle?
Oui, j'adore. Je sais pas si les gens que j'invite chez moi adorent que je cuisine, mais en tout cas,
ils
moi,
vous disent
j'adore.
Quoi,
j'adore. Non, mais après, j'ai mes spécialités. Par exemple, les travers de porc grillés. Alors ça, je donne la recette à personne comme comme faisait ma grand-mère, à donner des recettes à personne.
Mais comme ça, c'est bien, ils sont obligés de venir chez vous pour
ils
la manger.
Ils sont obligés de venir. C'est... Alors, mais j'adore les réunions de... Pour le coup, je suis bien, bien du sud-ouest, parce qu'on a cette culture chez nous, là-bas. Et j'adore les réunions de potes,
à
de famille.
Table, avec oh beaucoup là de là, monde
beaucoup.
Autour
et plus
de la
plus
table.
Et plus il y en a, plus en général, j'invite 4 personnes. Je dis, oh, bon, on va inviter aussi, puis on se retrouve à 12, et j'adore ça.
Et c'est ce qui est encore mieux. Alors, on peut à 12, pourquoi pas Sophie Mouns, préparer des pâtes.
Ah oui, bah.
Préparer des pâtes, on est pas
oui, c'est le plat idéal pour les grandes tablées. Les grandes
en 3 semaines, comment casser une image que j'ai mis tant de temps
maintenant, hein, elle fait hyper gaffe à ce qu'elle dit maintenant.
On fait passer pour qui
là? Ah, vous êtes restée sur le jingle, Sophie Mouns? Non, mais
je suis choquée.
C'est que de l'amour.
Bon, on va parler carbonara, mes chers. Oui. Voilà. Alors, la carbonara, avec ou sans crème?
Mais sans.
Petit tour
mais
de table.
Sans. Sans crème, bah,
il y a pas moi j'en mettais, mais vous m'avez dit qu'il fallait pas.
Non, il y a des lardons, il y a des œufs, ça c'est sûr.
Ouais, surtout pas de crème, ouais, jamais.
Est-ce qu'il y a des pâtes?
Alors, il y a des pâtes, ça je vous le confirme. Non, mais effectivement, il est prouvé que la carbonara, c'est vraiment l'un des plats les plus falsifiés au monde.
Qu'est-ce que ça veut dire carbonara déjà? Parce qu'il y a le mot carbonisé dedans, carbo, je sais pas.
Non, ça renvoie aux couleurs du charbon. Le charbon, c'est ça. Parce qu'on poivre très fort, et donc voilà.
Ok.
Alors, c'est vrai que après tout, on peut se dire une recette de cuisine n'est pas figée dans le ciment, quoi. Elle peut évoluer. C'est pas un problème de mettre de la crème fraîche dans des pâtes, sauf qu'on peut pas l'appeler carbonara.
Voilà, on est d'accord.
Donc, mais alors, comment on fait?
C'est ça que je veux savoir. Secondes.
Mais non, mais je peux pas, j'ai faim, Sophie.
Il y avait une recette qui avait fait un scandale, et particulièrement en Belgique, où il y a une très forte communauté italienne. C'était le one pot pasta. C'était une vidéo dans laquelle on avait mis dans une casserole pâtes, lardons.
Je me rappelle, oui.
Tout cuit, oignons, tout cuit ensemble. Ils avaient rajouté de la crème fraîche et du fromage. Et ils avaient appelé ça la carbonara. Là, il y a une révolution des gilets carbonariens.
Mais bien sûr.
Alors, c'était dramatique. Donc aujourd'hui, je vais juste vous donner la recette authentique. Après, vous pouvez la faire évoluer, effectivement.
Mais ne l'appelez pas comme ça.
Voilà.
Merci.
La vraie carbonara, il vous faut donc des spaghettis. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se prête le mieux avec cette sauce au fromage et à l'œuf. Belle pâte, bien, une jolie mâche, pas trop cuite. Pour 100 grammes de pâte, il vous faut un œuf. Donc disons que pour une famille de 4 personnes, mettons 400 grammes de pâte.
Oui.
4 œufs, ok? Il vous faut du fromage. Le fromage utilisé dans la recette originale, c'est le pecorino. Pecorino, c'est du fromage de brebis. C'est un fromage à pâte dure que vous râpez vous-même. On n'achète pas les fromages pré-râpés.
Mais évidemment.
On est d'accord.
Non,
Sophie,
seulement
nous
c'est cher. Non seulement c'est cher, et en plus, il y a souvent des additifs dedans. Donc, aucun intérêt. On est bien d'accord?
On est d'accord.
Ensuite, il vous faut la viande. Alors, certains vont utiliser le lardon. Mais dans la recette originale, c'est du guanciale qu'on utilise. Le guanciale, c'est de la joue de porc séchée, comme un jambon d'ailleurs. Et c'est effectivement quelque chose qui va donner vraiment un goût. Donc c'est bien gras, il y a quelque chose de très très bon dans cette viande. Si vous n'en avez pas, de la pancetta fera l'affaire. Sinon, on peut décliner avec des charcuteries locales, de la coppa par exemple, ou une belle, un beau morceau de lard, ça peut se faire. Mais bien fait, quelque chose qui ait de la gueule. Et puis, du poivre du moulin et du sel. Donc, on va faire bouillir de l'eau, bien salée. Vous allez, dans une sauteuse, faire revenir votre viande. Ça, vous ne mettez pas de matière grasse parce qu'elle va rendre
elle est déjà
son
grasse,
gras.
Oui.
D'accord. Vous allez donc bien les faire dorer. Vous les réservez dans une poêle. Dans un petit saladier, vous allez battre vos œufs jaunes et blanc, d'accord?
Okay.
Vous salez très légèrement parce que vous aurez quand même le salage de la viande. Vous poivrez et vous ajoutez votre pecorino. L'idée, c'est d'avoir une texture bien crémeuse. Donc, allez-y sur le fromage. Hein. Il faut que ce soit...
C'est généreux.
Combien de fromage pour 100 grammes de pâte?
Non, moi, je ne travaille pas comme ça. Disons que je dirais la moitié de fromage par rapport aux œufs.
Ah, aux œufs.
Vous voyez? Mais il faut que ce soit vraiment onctueux. Vous devez voir quand vous fouettez ce mélange, quelque chose de...
Ça s'épaissit, quoi.
De généreux, vous voyez. Et puis vous goûtez aussi.
Je crois que c'est une des recettes de la première semaine du régime comme j'aime. Il me semble que j'ai vu ça.
Vous cuisez vos spaghettis dans votre eau. Vous allez les retirer. Mais le truc, c'est de ne pas trop égoutter vos pâtes. Elles doivent rester encore humides. D'ailleurs, même le truc que je vais vous donner, c'est avant de jeter vos pâtes, vous gardez un petit bol d'eau de cuisson. C'est de l'eau bien amidonnée et elle va permettre après de faire prendre
de lier la sauce.
Donc, vous avez votre sauteuse d'un côté, vous prenez vos pâtes, même avec la petite cuillère à pâtes, vous mettez directement dans la sauteuse, vous rajoutez les œufs avec le fromage, vous mélangez bien, vous continuez un petit peu la cuisson, vous salez et basta.
Et la viande, on la remet quand ?
Là,
la viande.
Je suis la viande à côté.
On la remet pas avec. Moi, je pensais que vous la remettiez avec le fromage.
C'est important que ce n'est pas la viande qui finit dans les pâtes, c'est les pâtes qui finissent dans la sauteuse avec les œufs. Avec le poivre, bien poivré.
Parce que le goût est là.
Voilà. Et alors, vous rajoutez, effectivement, pour avoir ce côté très, très onctueux, un petit peu d'eau de cuisson pendant que vous mélangez en phase finale de votre carbonara. Donc, non seulement c'est bon, c'est roboratif, c'est économique, c'est simplissime.
Et c'est pas gras, ça fait pas grossir.
Il n'y a pas de crème fraîche, hein, donc a priori, ça le fait quand même.
Oui, il n'y a que de l'amour dedans, donc l'amour, ça fait pas grossir, c'est bien connu. Merci beaucoup, Sophie Moons.
Ça fait envie, en tout cas.
Si vous avez des questions techniques pour Sophie, n'hésitez pas non plus, elle se fera un plaisir d'y répondre. Et un grand merci à vous aussi, auditeurs, qui nous envoyez des cartes postales. Merci à Sandrine, fidèle auditrice, pour sa carte de Talmont Bourgeonnais, c'est en Vendée. Et voilà, les vacances sont terminées. Merci de nous avoir fait profiter de tous ces bons plans, les filles. Votre émission est top, je vous embrasse toutes et tous. Merci beaucoup, Sandrine. Et merci à vous, Christelle Cholet, d'avoir passé ces deux heures avec nous. Je rappelle que vous jouez votre spectacle numéro 5 de Cholet, au théâtre de la Tour Eiffel.
Parce que le chalet, c'est plutôt,
c'est plutôt
dans les Vosges.
Au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, demain, vendredi, samedi, ainsi que le week-end suivant, avant une petite pause au début septembre, une reprise le 26. Ensuite, vous serez en tournée aussi à Gorges le 20, le 21 à Épernon, le 22 à Coudert. Et il y a énormément de dates. Je ne vais pas toutes les citer puisque vous êtes en tournée jusqu'en avril 2020. Donc,
je suis au théâtre de la Tour Eiffel jusqu'en janvier. Et après janvier, c'est la tournée.
On ira vous voir avec grand plaisir,
merci
numéro
beaucoup.
5 de Cholet au
je
théâtre de la Tour Eiffel.
Je vous accueillerai avec plaisir au théâtre de la Tour Eiffel.
Dans votre théâtre en plus.
Oui.
Sophie Massieu, Sophie Moons, on se retrouve demain avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. On ira dans les Côtes d'Armor. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.